les jardinières.
Salut à tous et bienvenue dans les jardinières. Jusqu'à 8h, je suis en excellente compagnie. Bonjour Aileen.
Mais bonjour Stéphanie, pas de doute possible. Hein. Cette journée s'annonce idéale pour sortir au grand air. Les 30 degrés sont attendus pour ce week-end et vos jardins ont besoin de vous pour se rafraîchir. Ce matin, on parle jardinage, donc jusqu'à 8h en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve. Bonjour Olivier.
Et bonjour.
Nous sommes le 30 juin 2018, dernier jour du mois. Les grandes vacances approchent, mais ce n'est pas une raison pour mettre déjà vos jardins en congé. Comment gérer les grosses chaleurs annoncées? Que récolter et que planter en ce moment? On fait le plein de bons conseils et on répond évidemment à toutes vos questions avec Olivier Ribaud.
Et d'ailleurs, les questions, vous pouvez nous les poser en direct, enfin surtout à Olivier Ribaud. Vous pouvez le faire par téléphone en composant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Ou alors, vous pouvez choisir l'option SMS. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous nous envoyez le tout au 939. Sinon, il y a aussi le formulaire que vous pouvez trouver sur notre site web sous l'onglet émissions. Et si vous choisissez l'option SMS ou formulaire web, on vous rappelle qu'il est bien de détailler au maximum votre problème, votre question pour qu'on puisse vous aider correctement.
Mais on a fait le tour, hein, les jardinières de ce samedi 30 juin, c'est parti.
7h, 8h, les jardinières.
Première question, Olivier, en cette saison, combien de temps conseillez-vous de garder un compost? Une question qui nous vient de Adeline de Moutier.
Alors, pour le compost, c'est pas une question de durée pour le garder. Je dirais, vous pourrez garder un tas de compost plusieurs années, même très très longtemps. Mais à un moment donné, si vous le gardez trop longtemps et puis qu'il est toujours en tas, il va perdre ses éléments et puis sa valeur de ce compost. Donc, il va amener une matière riche, grasse, organique dans vos sols ou dans votre jardin. Donc ça se garde ou alors on peut le remélanger avec du nouveau, du compost frais pour qu'il garde cet élément de matière organique pour apporter à vos plantes, à votre jardin, quelque chose qui soit nutritif.
Est-ce que ça dépend de ce qu'on y met dans ce compost? Parce que c'est vrai que parfois on peut mettre, généralement c'est des fruits, légumes, etc. Mais si on met par exemple des œufs, des choses peut-être plus consistantes, est-ce que ça change quelque chose ou pas?
Alors tout à fait, on l'a déjà vu plusieurs fois, ces questions de comment on fait un compost et tout ça. Si on utilise des matières qui sont beaucoup plus ligneuses, beaucoup plus donc sous forme de bois, pour décomposer ce compost, il va falloir beaucoup plus de temps. Si on le broie grossièrement ou très fin, c'est aussi un élément qui mettra la durée de ce compost. Mais un compost, s'il est broyé assez fin, qu'on met pas des grandes branches et puis des grands morceaux de bois, il est fait sur une durée de 2 jusqu'à 5 ans et après il peut se garder encore aussi une fois aussi longtemps. Donc vous parliez d'œufs, si on le laisse entière, on va la retrouver, cette coquille, pendant plusieurs années. Donc à un moment donné, c'est en le brassant, le broyant, le triant qu'on gardera des éléments fins, mais une fois que ça c'est fait, ces éléments fins, il faut les utiliser.
Et on passe à une question qui nous vient d'Ariel du Val-de-Ru. En fait, ce sont deux questions qu'elle nous a posées. Elle nous dit « Je suis débutante en jardinage et je pense que j'ai fait une erreur avec mes cultures de courgettes et d'aubergines. » On va commencer avec les aubergines. Elle nous demande « Les fleurs s'ouvrent et se fanent sans rien donner. En plus, j'ai très peu de feuilles sur les pieds. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un problème d'engrais ?» Olivier Ribaud.
Alors je pense, si elle le précise elle-même, qu'il y a très peu de feuilles, la plante a peut-être mal poussé ou pas assez poussé. Donc c'est pas parce qu'elle fera des fleurs, c'est des fleurs qui seront chétives et puis qu'elles seront là juste au début de la culture et puis elles vont avorter. Donc c'est clair qu'il faudrait pour une plante, une plante à légumes, il faut d'abord la faire pousser en feuillage, la faire grandir correctement et c'est peut-être justement là une personne qui manque de bon compost pour enrichir son jardin, son sol ou son grand bac parce qu'elle parle de qu'elle habite dans le Val-de-Ru. Donc si elle met des aubergines, il faudra les mettre quand même dans un endroit très très abritée du froid, des courants, pour que c'est une plante qui est sensible. Donc je pense qu'elle n'a pas trouvé le bon endroit, puis le bon substrat pour la faire pousser ses aubergines correctement, parce que ça doit venir vraiment assez fort, une aubergine, et puis qu'après ben, la floraison va suivre et puis va rester pour donner des fruits.
Ça prend du temps pour les aubergines,
ben une aubergine,
pour avoir un premier légume.
On a planté les premières aubergines donc après les Saintes Glaces, après les 15 mai. Donc maintenant, je dirais que ceux qui ont commencé dans ces périodes-là, on doit commencer d'avoir déjà des beaux petits fruits qui sont quasi bons à récolter d'ici 3 semaines, quelque chose comme ça, ça dépend. L'environnement, justement, si ça a été cultivé sur un petit abri, une petite serre, ou bien si c'est vraiment qu'à l'extérieur, ou c'est qu'elle subit toutes les intempéries, donc ça met plus de temps. Mais il faut compter 2 mois, 2 mois et demi pour avoir une belle production jusqu'à l'automne après.
Et on va donc prendre maintenant la question concernant les courgettes. Elle nous dit « J'en ai planté quelques pieds il y a un mois et certains sont bien verts, mais d'autres sont plus jaunes et plus petits. Je me demandais si c'était un problème d'arrosage cette fois-ci. »
Non, alors le problème de la courgette, c'est comme l'aubergine, comme la tomate, même si on peut prendre les choux en exemple, si vos plantes sont de feuillage jaune pâle, c'est qu'il y a une carence, il manque un élément, il manque la vigueur pour faire pousser ces plantes, pour qu'elles donnent du feuillage, pour qu'elles viennent grandes. Donc si elles sont restées jaunes, c'est qu'elles n'ont pas trouvé assez d'éléments nutritifs dans le sol, notamment toujours ces fameux composts et ces terres qui sont riches et qui doivent faire pousser le feuillage, qui doivent venir vert et qui après on peut lui demander à cette plante, donc la courgette, de nous donner des fruits. Parce que si la plante ne pousse pas, elle va faire des fleurs qui vont avorter, qui vont vraiment rien donner. Donc il faut vraiment que une plante soit saine pour pouvoir après procréer dans le fruit.
Et c'est pour ça que finalement on met de l'engrais.
Alors c'est voilà. Pour ça qu'on peut utiliser des engrais. Dans les plantes, on parle d'un engrais normal, mais quand on parle de jardin, on va utiliser des engrais bio, des engrais de matière organique. Donc on peut trouver des engrais à base de râpure de corne, des choses comme ça, qu'on doit mettre assez rapidement. C'est aussi les questions qu'on a souvent au printemps. Les gens, ils font tout en même temps. Ils mettent l'engrais, ils mettent la plante, et puis après ça doit tout venir en même temps. Donc les engrais de fond, le fumier, le compost, les râpures de corne, on les met tôt dans la saison, on va les mettre même à l'automne pour que dans le sol cet élément nutritif se stabilise, et puis que la plante, une fois qu'on la met au mois de mai, juin, c'est à ce moment-là qu'elle trouvera ses résidus d'engrais, du compost ou des fumiers de l'automne.
Ces deux légumes là qu'on a cités, donc les courgettes et les aubergines, n'ont pas nécessairement besoin de beaucoup de chaleur. Peut-être les aubergines ont besoin quand même d'un climat plus tempéré.
Si, alors c'est deux légumes, deux fruits de plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur, comme la tomate. C'est vraiment les derniers légumes qu'on a mis en place dans le jardin, comparé à des choux, à des salades ou à des choses comme ça qui ont besoin de moins de chaleur. Mais maintenant, si ça a été mis en place dans ces fameuses périodes de fin mai, début juin, maintenant ces plantes, elles doivent pousser. Et puis maintenant, ce qu'elles demandent aussi, c'est pour que ça fasse du feuillage, c'est de l'eau. Donc elles trouvent assez d'humidité dans les sols, sans forcément les mouiller par-dessus le feuillage, mais qu'elles trouvent de l'humidité pour développer ces fameuses feuilles, pour qu'après, on ait des fruits.
Les jardinières.
Vous êtes avec les jardinières, vous pouvez poser vos questions au 0901 70 20 20, comme le fait d'ailleurs en ce moment André de Delémont. Il nous a appelé pendant la pause musicale. Et si j'ai bien compris, André, vous avez une question concernant le basilic. Tout d'abord, bonjour.
Bonjour, oui, exactement. Bonjour, j'ai une question parce que habituellement je semais du basilic en caissette, etc. Là je l'ai mis en pleine terre, et puis après j'entends différentes personnes qui disent ouais, c'est pas bien que le basilic reçoive de l'eau de pluie directement sur le feuillage. Je voulais un petit peu avoir l'avis du jardinier, est-ce que c'est bien ou pas, est-ce qu'il faut l'abriter comme les tomates? C'est un peu ma question, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Maintenant il sort, il est tout petit, je vois, bon, nickel, alors je sais pas.
Alors tout à fait, bonjour André. Le basilic, c'est un petit peu le même principe qu'une tomate, comme vous l'avez dit. Déjà, le semer en pleine terre, directement au jardin, c'est faisable. Mais vous avez déjà fait, je pense, la plus grande partie juste, c'est que vous l'avez semé ces derniers temps. Parce que si vous semez du basilic au jardin, je dirais moi, dès le mois de mai jusqu'à fin mai, ce sera beaucoup, beaucoup trop tôt. Donc de le semer juin, mi-juin, juillet, vous pouvez. Et puis bien sûr, le laisser grandir comme ça, ça va faire jusqu'à l'automne, vous voulez arriver à le faire pousser. Si vous l'avez en caissette, des fois, c'est là l'avantage, c'est de le semer en caissette un peu plus tôt pour après l'amener à l'état naturel dehors progressivement pour après, de nouveau, l'automne, éventuellement, le remettre dans une situation un peu plus protégée. Parce que c'est une plante qui est vraie, qui est très sensible au froid, au courant et puis aux excès d'eau aussi, surtout.
Oui. Donc, ce serait nécessaire de faire un petit abri comme par-dessus le feuillage pour éviter que l'eau de pluie tombe directement sur le feuillage.
Alors, c'est pas, franchement, c'est difficile à dire si vraiment c'est obligatoire parce que vous aurez une année un peu chaude, un peu sec, qui durera longtemps pendant l'été. On aura des petites pluies fines, ce ne sera pas nécessaire. Mais si on a tout d'un coup, pendant 15 jours, 3 semaines, beaucoup de pluie, fin juillet, début d'août ou mi-août, avec des nuits un peu brumeuses comme ça, et c'est ça qui fera développer le champignon, la pourriture, la moisissure. Et puis c'est là qu'on perdra notre basilic. Donc si à ces périodes-là, il serait couvert, eh bien ça va l'aider à passer ces fameux caps des fois de 15 jours, 3 semaines, selon les périodes où il y a trop d'humidité. Puis c'est là qu'il pourrit, puis on le perd tout en l'espace d'une semaine. Après, c'est ça qui est dommage.
Ah ouais, d'accord.
Voilà. C'est un peu comme les tomates. Une tomate pousse très bien sans être couverte, mais on a remarqué tous que depuis maintenant un bon moment, quand on a ces fameuses pluies un peu fortes, un petit peu acides aussi maintenant, qui tombent sur le feuillage, et bien les tomates elles viennent malades et puis ça peut virer en 3 semaines, vous n'avez plus de feuilles vertes, il n'y a plus rien, puis ça c'est dommage. Donc le basilic, vous pouvez le mettre dans les mêmes conditions, les mêmes endroits, ou bien même l'intercaler avec les tomates, ça pousse très bien.
Ok. Et puis donc, ça demande beaucoup d'eau, il faut un arrosage.
Alors le basilic, quand il est petit, faites attention, parce qu'il faut vraiment l'arroser modérément. Il ne faut pas que ce soit toujours humide non plus, parce que justement, il va se développer des pourritures, puis après, vos basiliques vont tomber, tout d'un coup, on les voit pousser, puis ils pourrissent au pied. Alors il faut une humidité, mais laisser quand même des petites périodes deux journées sans forcément que ce soit toujours trop humide. Sinon, c'est la pourriture qui prend le dessus.
Ah, ok.
Ben, merci, André.
D'accord.
Ouais, merci.
Bonjour, merci. Bon week-end à vous.
Bonne journée à vous. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir, merci Julien.
Au revoir.
Belle journée André, si vous aussi vous avez envie de poser une question pour Olivier Ribaud, notre pépiniériste de Queuve, vous n'hésitez pas à composer le 0901 70 20 20. Olivier, concernant ces plantes aromatiques qu'on peut planter comme ça en sol, est-ce qu'on peut le faire avec toutes?
Alors oui, parce que là on a parlé du basilic, c'est quand même la plante aromatique en excellence la plus sensible. Si on prend un romarin, du thym, de la sauge, c'est des plantes aromatiques qui vont rester en jardin, en pot, en bac, sur le balcon. Ça, c'est des plantes qui sont beaucoup plus dures parce qu'elles viennent ligneuses avec le temps. En automne, elles viennent dures. Tandis que le basilic, c'est vraiment la plante annuelle qui est vraiment la plus délicate. Donc, c'est pour ça qu'on la met souvent aussi en pot. Maintenant, on essaie de vouloir manger du basilic où on trouve du basilic toute l'année bientôt. Ce qui est un petit peu dommage parce que ça casse les saisons. Le basilic, comme on disait avant, ça va avec la ratatouille et les salades de tomates en été. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on essaie de garder cette plante et la cultiver dans cette période de chaude maintenant, parce que c'est une plante qui aime beaucoup le chaud. Vous avez des basiliques dans les pays chauds qui sont encore avec des feuillages différents, un peu plus petits. C'est, en plus, c'est là qu'elle aura, c'est le basilic qui aura le plus de parfum, ce feuillage qui aura le plus de goût. Parce que si vous cultivez du basilic et puis que c'est très humide et puis qu'on a pas beaucoup de chaud, le feuillage viendra tout molle, tout tendre, et puis il ne développera pas beaucoup cette saveur qu'on recherche dans ce basilic, donc qui donne ce parfum très fort. C'est le chaud, le sec, les conditions d'été arides qui donneront ce parfum à ce basilic.
Les jardinières.
On On est de retour dans Les Jardinières le samedi matin, c'est notre petit plaisir, on parle exclusivement jardinage. Et puis jusqu'à 8h, c'est Olivier Ribaud, notre pépiniériste de Queuves qui nous accompagne. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez.
Et surtout, sachez que vous pouvez poser vos questions jusqu'à 8h, soit par SMS ou taper le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous nous envoyez tout ça au 939 ou alors par formulaire web tout simplement ou par téléphone au 0901 70 20 20. Comme l'a fait l'auditrice qui est avec nous en ce moment. Bonjour.
Oui, bonjour.
J'entends juste votre radio en fond. Est-ce que vous pouvez la mettre juste un peu moins fort, comme ça résonne un peu moins.
Je vais plus loin.
Ah, ou vous allez plus loin, c'est une solution comme une autre.
Voilà.
Alors, vous êtes avec nous pour nous poser une question. Dites-nous tout.
Alors, moi, j'ai une belle cassette de fleurs sur ma fenêtre de cuisine. C'est des surfignas. Et tous les jours, j'ai des tiges qui sont toutes sèches et les racines sont mangées. Et j'ai trouvé des perce-oreilles au fond dans la soucoupe. Est-ce que c'est elles qui peuvent manger mes racines ?
Alors, les perce-oreilles ne vont pas vous manger les racines des surfignas, les pétunias que vous avez plantées, je ne pense pas. Vous devez avoir, je pense, d'autres attaques, soit éventuellement de pucerons, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez courant sur le surfinia. La perce-oreille, elle va
parce
venir...
Que j'ai des tout petits trucs blancs, c'est ça alors ?
Alors les petits trucs blancs qui sont un petit peu volants, comme ça un petit peu tout sec, c'est un puceron qui est mort, ça, qui est en train de se dessécher. Par contre, si vous retournez les feuilles et puis que vous voyez des toutes petites cloques vertes un peu grasses, comme ça, si vous écrasez que c'est gras, c'est ça les pucerons. Ouais. Maintenant, si vous sentez votre feuillage quand vous le touchez qui colle un peu aux mains, alors ça aussi c'est le résultat du puceron. Donc c'est extrêmement ce que le puceron rejette, c'est ça qui va coller et c'est ça qui va attirer justement soit les perce-oreilles, ça arrive, mais c'est un peu plus rare parce que vous en avez peut-être dans votre environnement, puis ils sont venus se réfugier là, plus pour y habiter que pour faire du dégât à vos fleurs. Par contre, ça va peut-être aussi attirer des fois les fourmis. C'est ça que les fourmis viennent manger, ce miel-là, ce qui colle aux mains, c'est l'extrémement du puceron. Moi, à mon avis, sur vos surfignas, ce que vous devriez faire, c'est simplement faire un insecticide pour combattre ces pucerons. Donc, un insecticide, il y a plusieurs sortes de produits que vous pouvez trouver dans le commerce pour gicler vos surfignas. Maintenant, s'ils sont en pleine floraison, en plein été comme maintenant, ce qui est souvent le cas, si on traite avec le produit sur les fleurs, on va brûler les fleurs, on va endommager tout le système de fleurs. C'est un petit peu dommage. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre produit dans un arrosoir et puis arroser le substrat. Parce que souvent, il y a aussi des pucerons qui se trouvent à cet endroit-là. Et puis, le produit va se trouver sur le substrat en mouillant un peu le feuillage aussi. Mais ne les giclez pas, ne les pulvérisez pas avec la solution sur directement toute la masse de fleurs. Parce que les fleurs, après, ça va les endommager. Donc vous mettez ça plutôt dans un arrosoir, vous arrosez le feuillage et la terre et vous faites ça, vous faites ça je dirais deux fois, une fois et puis vous attendez une petite semaine pour répéter votre opération et puis après normalement ces pucerons vont disparaître. Il y a eu une période d'humidité, une période de chaud, donc ça développe beaucoup d'insectes et surtout ces pucerons parce qu'il y a même peut-être... peut-être trouver dans le sol des petites larves, des petits vers qui mangent justement ces fameuses racines. Alors en faisant ce procédé de mettre votre insecticide avec l'arrosage et puis en le mettant sur le feuillage, ça peut aussi combattre ces petits vers qui auraient rongé ces quelques racines.
Oui, parce que moi j'ai essayé de mettre c'est du pyrox, je ne sais pas quoi, cette poudre blanche.
Oui, mais... Pyrox,
c'est pas
plus,
assez efficace.
Non, c'est plus un produit que vous allez utiliser pour dans le jardin potager qu'après justement c'est la pluie, l'humidité, les grands arrosages qui feront agir ce pyrox. Il faudrait plutôt trouver un insecticide en liquide que vous mettez dans l'arrosoir, que vous brassez bien et puis que vous le mettez sur la plante avec de l'humidité, avec de l'eau. Si vous mettez que à sec, ça sera plus difficile pour faire agir ça. Alors voilà.
Alors très bien. Très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Merci, madame.
Bonne journée.
Merci à vous. Bon week-end. Et puis, on va prendre, j'allais justement vous dire qu'on a reçu une question par formulaire web, Stéphanie, si vous voulez bien nous la lire.
Exactement, et c'est Sylvana de Couvet qui nous a posé en fait deux questions. La première, elle a un néflier du Japon qu'elle a obtenu en plantant une graine. Elle nous dit qu'il a bien poussé, environ 60 cm à l'intérieur. Est-ce qu'elle peut le mettre à l'extérieur et est-ce qu'il supporte l'hiver dehors en étant bien protégé? Ça, c'est la première question. Alors, Olivier.
Oui. Alors oui, tout à fait. Le néflier du Japon, qui est un joli arbre qui fera surtout des jolies, jolies feuilles, qui est très peu connu chez nous. On peut le planter en pleine terre, ça, c'est pas un problème. Et le planter maintenant, si juste comme elle dit qu'il a déjà une belle grandeur, elle peut le faire maintenant cette saison. Il va s'implanter dans le sol, pardon. Il va faire des racines et après elle peut le protéger pour l'hiver avec un voile, une protection, un paillage. Et puis il va rester au sol. Il va perdre ses feuilles. L'année prochaine, il va repousser, il va refaire la pousse et ça fleurit assez rapidement pour donner justement les fameuses et les jolies nèfles qu'on peut consommer, qui est un fruit qui va venir jaune, orange, comme ça, pour l'automne. Parce qu'on a des nèfles au printemps, en été, on en a en automne. Chez nous, les nèfles, elles sont consommées à l'automne, je dirais même pendant les premières gelées. Ça peut geler une fois, ça va attendrir ce fameux fruit, ça va enlever cette peau qui est autour et puis qu'après on peut utiliser sans problème. Mais elle peut le planter en pleine terre et le protéger. Déjà le planter dans un endroit abrité, pas le mettre le plus exposé, mais ça c'est faisable et ça pousse très très bien. Je dirais même que ça, à un moment donné, une fois que ça a bien pris, faut pas hésiter de tailler assez fort parce que sinon ça vient grand et cassant.
Et puis, on va passer donc à la deuxième question de Sylvana. Dans le jardin, j'ai plusieurs plantes de cassis et de groseilles rouges. Elle nous dit comme je dois quitter ce terrain et que les arbustes sont indéracinables car trop grands. Elle voudrait savoir s'il est possible de récupérer une partie pour les mettre dans un nouveau jardin. Comment procéder pour la coupe, en fait? Comment est-ce qu'elle pourrait prendre un extrait de ces arbres, en fait?
Oui, alors comme elle le dit, si l'arbre est vraiment trop, trop grand, l'arracher complet puis le reprendre, ça ne marchera pas, il va pas redémarrer. Par contre, le résinier de cassis, si elle a un peu de temps puis avant de déménager, elle pourrait, au pied, elle peut mettre le rebuter avec de la bonne terre, un bon compost, une terre un peu meuble, fine. Pas forcément toute la plante, mais au moins la moitié du volume de son groseille. Et puis elle met de la terre fine autour à cette saison. Et jusqu'à l'automne, ce groseillier peut éventuellement faire des petites racines qui vont ressortir. Et puis là, elle va prendre, c'est ce qu'on va faire, on appellera peut-être un marcotage, un peu un jargon, c'est buter le pied de la plante. Et la plante, pendant la végétation de maintenant, elle va faire des petites racines, des petites radicelles. Et à l'automne, on va re-enlever cette terre délicatement. Et puis on va sectionner la branche ou les deux branches qui auront fait un peu des racines. On va la couper de la plante mère, donc de son pied qu'elle a dans son jardin. On va aussi couper la tige par la moitié, en tout cas, 50%. Et puis là, on aura un petit bout de rameau avec des racines et un bout de tronc, de tige, qu'elle peut aller replanter soit dans un pot ou soit dans un nouveau jardin. C'est, si elle ne sait pas trop, on peut trouver ça, c'est du marcotage, c'est qu'on va, mettre de la terre contre une branche ou contre plusieurs branches, faire ça maintenant pendant la saison et ça va refaire sortir des racines au pied des tiges du résinier ou du cassis.
Et ça, c'est possible avec toutes sortes d'arbustes fruitiers ou d'arbres fruitiers, parce que, à titre d'exemple un peu personnel, j'ai un figuier chez moi, et puis je me demandais si un jour je déménageais, si je pourrais à nouveau avoir des figues dans mon nouveau chez moi. C'est quand même quelque chose de chouette.
C'est plus difficile, c'est vraiment personnel aux groseilles, aux cassis qu'on peut faire cette procédé. On peut utiliser aussi ça sur d'autres arbustes, comme vous dites, figuier ou autre. On va plutôt après les multiplier, soit en coupant des rameaux, donc des fragments de rameaux qu'on va piquer et puis qu'on va attendre que ça fasse des racines. Ça va mettre du temps, il faut le faire dans des bonnes périodes, mais c'est vraiment typique aux groseilles, aux cassis de faire ce genre de travaux de marcottage. Un autre arbre, on peut des fois voir quand on a une branche qui touche le sol, elle fait des racines en dessous. Mais c'est vraiment ces deux-là le plus simple à faire pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude.
Justement, j'allais vous demander par rapport à ça, est-ce que vous le conseillez de le faire faire par un professionnel ou c'est quelque chose qu'à la portée de tout le monde ?
Non, elle peut faire ça elle-même. Il faut juste mettre un peu de terre de jardin, de, comme on disait avant, avec mélanger du compost. Que ce soit un milieu riche, que la plante, qu'elle se trouve, à cette terre se trouve autour de cette tige, et puis que la plante fasse des racines. Il faut juste ça. Et aussi, justement, pas oublier de bien l'humidifier pour que ça fasse ce fameux système racinaire.
Olivier Ribaud, vous êtes encore avec nous pendant quelques minutes. Du coup, les auditeurs qui nous écoutent peuvent encore vous poser des questions pendant quelques instants, soit par SMS, vous tapez le mot jardin suivi d'un espace et de votre question, vous envoyez tout ça au 939 ou alors par le formulaire qui se trouve sur notre site web. Et bien sûr, notre standard téléphonique est encore ouvert au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. On revient après quelques notes de musique.
Les jardinières.
Les jardinières vous accompagnent les samedis matins et on répond à vos questions par SMS notamment. Et d'ailleurs, Evelyne nous a envoyé un SMS pendant notre pause musicale. Elle nous dit « J'ai un plant de vigne que j'ai mis dans un grand tonneau de terre contre la maison. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, il va bien, il a bien pris. Est-ce que vous pensez que pour l'hiver, je dois le rentrer ou simplement l'emballer ?» Olivier.
Alors moi je pense que comme elle l'a précisé, il va bien, il a bien grandi, elle n'a pas du tout besoin de le rentrer, au contraire elle va, si elle le rentre, elle va accélérer au printemps le débourrement et puis l'apparition des nouvelles feuilles, donc non, elle va le laisser dehors, elle va protéger ce fameux tonneau, soit par des plastiques bulles ou une grande toile ou comme ça, et puis protéger le dessus de la terre, du sol, et puis il va passer l'hiver. Le pied de vigne, il faut quand même savoir que c'est une plante qui est quand même très très résistante au froid. En parlant de la plante en elle-même, il n'y a aucun souci. Ce qui va souffrir à la vigne, c'est plus les gelées de printemps, justement quand les feuilles sortent tôt, comme on l'a vu même à l'état naturel il y a 2 ans, je crois. Donc le feuillage va, les bourgeons vont geler, mais la plante en elle-même est très résistante. Donc moi, je la laisserai dehors, sans problème.
Et nous avons reçu un deuxième SMS, Olivier. Oui. Un SMS concernant des hortensias de 15 cm de hauteur plantées dans des bacs. Les tiges tombent comme si elles étaient sans force et ensuite elles sèchent. Que faire ? Et c'est Annette qui nous pose cette question.
Alors la question est un peu vaste parce que l'hortensia, si elle a les tiges qui tombent maintenant en feuilles, ou si elles sont, faudrait voir s'ils sont fleuris maintenant, mais je pense que si elle les a en bac, puis qu'elle a des tiges qui sont trop faibles, parce que soit elle a des fleurs dessus, ça arrive souvent, la fleur avec le poids fait flancher, fait tomber la tige, donc on va les aider des fois avec des petits bâtons, des petits bambous pour les soutenir, parce que l'hortensia, il fait vraiment une très grosse fleur. S'il y a un autre problème que l'hortensia qui a été plantée puis qui est restée dans ce bac depuis plusieurs années, on a toujours un roulement de tiges, donc il y en aura des qui viendront vertes, les tiges de l'année d'avant vont donner les fleurs, et puis les plus vieilles vont sécher, vont casser quasiment, on peut les prendre, et puis les tirer sur le côté, elles vont casser à la base, donc ça c'est un peu le cycle naturel de l'hortensia. Il y a toujours du sec par-dedans qu'il faudrait éliminer pour relaisser pousser les nouveaux bourgeons pour refaire une nouvelle tige. Mais je pense plutôt que c'est la première possibilité, c'est qu'elle a les fleurs trop lourdes et puis qu'il faudrait les aider avec des petits bambous, surtout si elle les a dans des bacs. Oui.
L'hortensia, c'est une fleur qui pousse une fois par année ou c'est assez délicat justement?
Alors l'hortensia est une plante de printemps qui débourre au printemps, qui fait ses magnifiques grandes fleurs roses, blancs, voire bleues si on va en Bretagne, parce que chez nous il faut quand même faire attention, c'est difficile à faire pousser, il faut des terres acides, pas des terres calcaires, c'est pour ça qu'on les plante en terre de bruyère et comme ça, mais c'est une plante qui pousse. On a plus de problèmes avec l'hortensia, avec les hivers rudes qui font geler justement le bourgeon et puis qu'ils ont du mal à fleurir. Vous allez trouver maintenant beaucoup d'hortensias plutôt d'été et d'automne qui sont que des fleurs blanches, où elles vont fleurir blanches, puis elles vont virer un peu au rose, après vers l'automne, en fin de floraison. Ça, c'est les hortensias d'automne. Ceux-là, on a beaucoup de chance, parce que maintenant, ils commencent, ils sont blancs, maintenant, ils commencent de fleurir, et ça, c'est beaucoup plus facile à faire pousser.
On a reçu une question, peut-être la dernière pour ce matin, de Colette de Lignières, qui nous pose la question suivante. J'ai un cognassier avec beaucoup de fruits. Est-ce qu'il faudra soutenir l'arbre plus tard quand les fruits vont grossir?
Oui, ce sera impératif cette année. Ce sera le plus grand problème de tous les arbres fruitiers, que ce soit du coin ou autre. On aura malheureusement des magnifiques arbres qui vont lâcher, qui vont casser, surtout des arbres qui n'auront pas été entretenus à la taille depuis plusieurs années. Donc, avec la quantité de fruits qu'on a, on en a déjà vu qui lâchent, mais quand on voit le coin à l'état où il est maintenant, et puis comme il doit venir grand, ça va faire des kilos et des kilos. Donc soit les soutenir, soit même enlever un peu du fruit, parce que ça ne sert à rien, elle ne saura de toute façon peut-être même plus quoi en faire. Donc enlever les plus petits, les plus vilains, déjà maintenant, en faisant un éclaircissage, mais après il faudra caler, parce que c'est vrai que ça sera très lourd, ça va casser.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Ribaud. On le voit, l'heure passe, hein, il est bientôt 8 heures.
Merci.
L'heure pour les jardinières de vous laisser filer au jardin, mais n'oubliez pas la crème solaire, hein, très important aujourd'hui.
Ouais, Olivier... Pas sur les plantes. Hein,
oui, non, alors effectivement, c'est vrai. Peut-être faut-il préciser. Olivier Ribaud, merci d'avoir répondu donc à toutes ces questions des auditeurs. On vous souhaite également un très bel été, puisqu'on vous retrouvera à la rentrée. Ah,
tout à fait, merci beaucoup.
Et les jardinières reviennent la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous avez à propos de votre jardin. Hein. Soit par SMS, déjà vous pouvez nous envoyer vos questions en tapant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question. Vous nous envoyez le tout 939 ou alors vous allez tout simplement sur notre site internet, vous remplissez le formulaire de contact et le tour est joué. On prendra évidemment toutes vos questions samedi prochain entre 7h et 8h. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Et profitez bien, belle journée.
7h, 8h.